Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où nous partons à l'essai pour rencontrer Marion, membre du collectif Laine à l'Ouest qui vise à valoriser la laine locale. À l'origine, Stéphanie s'est implantée il y a maintenant quelques années en tant que bergère dans les prés salés et a voulu développer son activité. Marion a rejoint l'aventure il y a 2 ans et demi. Elle nous explique le processus de fabrication de la laine et comment, avec le collectif, elle professionnalise cette activité. Marion est une amatrice de grands espaces, amoureuse de la nature et dotée d'une volonté d'expérience et d'apprentissage infini. Bonne écoute. Bonjour Marion, comment vas-tu ?
Bonjour Camille, ça va très bien.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Du coup, je me présente en tant que membre de l'association de Laine à l'Ouest, qui est une association qui a maintenant 4 ans. Et qui s'est donné pour mission de refaire vivre une filière laine normande.
Et donc, t'es toute seule dans ce projet ?
Non, on est plusieurs. À l'heure actuelle, on est 3. Il y a Stéphanie, qui est éleveuse dans les prés salés de Saint-Germain-sur-Ré. Alexandra, qui est notre expert tricot, conseil, technique, et qui gère pas mal nos réseaux sociaux.
Ouais.
Et puis moi.
Et donc toi, quel est ton rôle peut-être dans l'association ?
Moi, je suis une touche-tout.
Ouais.
Je passe beaucoup de temps sur de la manutention, donc vraiment sur les récoltes et les tris de laine, les relations avec les partenaires, les relations avec les éleveurs, la transformation de la laine, donc les teintures par exemple, la promotion, la commercialisation, enfin il y a...
Ouais. C'est, ça... T'as pas de journée type,
voilà.
En fait.
Non, j'ai pas de journée type.
Ouais. Et c'est ça que t'aimes ?
C'est ça que j'aime, ouais.
Ouais.
On apprend tous les jours.
Ouais.
Et puis c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de forme figée, donc tout est permis.
Ouais. Et en fait, oui, c'est vous qui créez, qui faites ce que vous avez envie de faire, finalement.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Après, voilà, on a des partenaires... qui sont très techniques. Donc pour eux faut du concret, ils peuvent travailler à partir d'une certaine matière.
Ouais.
mais c'est très diversifié comme activité.
Et donc comment ça a concrètement commencé le projet?
On décide de travailler avec certains éleveurs. Donc, eux, ils vont nous vendre la matière première. Donc, on a comme critère qu'ils soient éleveurs de race locale. Donc, ça nous tient vraiment à cœur.
Et donc, quel est le périmètre peut-être local ? Ça va jusqu'où ?
On récolte sur toute la Normandie.
Ouais. Okay.
Beaucoup dans la Manche,
ouais.
Qui est le berceau des 3 races, hein, qui sont le mouton avranchin, le mouton cotentin et le roussin de la Hague.
D'accord.
Donc voilà, faut que ces éleveurs travaillent avec ces races-là et qu'ils élèvent en prairie.
D'accord.
C'est ouais. Nos deux critères.
Et donc en général, c'est eux qui vous contactent ou c'est vous qui faites la démarche d'aller les voir, peut-être de les rencontrer ?
Il y a tout.
Il y a tout ?
Ouais.
Il n'y a pas un ordre défini ?
Ouais, non. Voilà, à l'heure actuelle, on travaille avec une bonne quinzaine d'éleveurs.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Et donc, avant de collecter tout ce monde, donc ça a commencé avec Stéphanie qui avait son troupeau.
Ouais.
Et donc, elle voulait se diversifier et pas seulement faire de l'élevage. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, s'est construit Laine à l'Ouest.
Oui. Alors ouais, Laine à l'Ouest, c'est un projet qui est né dans la tête de Stéphanie. Notamment parce qu'elle elle accorde de l'importance à la diversification,
ouais,
de son activité. Et aussi parce qu'elle travaille avec le mouton avranchin, du coup, qui est une race du Sud-Manche qui est historiquement très réputée pour la qualité de sa laine.
D'accord.
Donc, elle avait conscience que ces moutons pouvaient avoir de l'or sur le dos. Donc voilà, elle s'est donnée pour mission de constituer une sorte de collectif, comme ça, avec des éleveurs et qui partageaient cette vision. Et qui voulait valoriser la laine de leur mouton.
Et donc, elle n'avait pas forcément tout ce côté technique sur le process de
transformation de la laine quand elle a lancé le projet.
Non, c'est pas l'amour de la fibre qui est à l'origine de ce projet. L'origine de ce projet, il est vraiment dans le soutien d'une agriculture de qualité et dans la valorisation d'une richesse locale.
Et donc, toi, tu es originaire du Cotentin.
Oui.
Et
Cotentin, à la limite, ouais. Ça se discute.
La Manche.
Le Cotentin, voilà, la limite du Cotentin. Moi, je suis originaire de 40 ans.
Ouais.
Donc, voilà, si on peut... 40 ans lycée, c'est un peu la limite.
On va dire la Manche.
Ouais. Bon, après, ouais. J'avais plus tendance à aller là-haut que en bas. Et j'ai de la famille qui est issue du Val de Serre.
Tu connais bien la région.
Ouais, j'ai pas mal traîné mes gaules.
Et t'as eu envie de t'engager, du coup, au niveau local ?
Oui. Du coup, moi, j'ai un parcours où peut-être, ado, j'ai voulu voir ailleurs. Mmh. Donc, en allant travailler comme saisonnière agricole. Ouais. Et en fait, ça, le coin m'a manqué. Mmh. J'y suis très très attachée, notamment à Saint-Germain-sur-Aix, hein, qui est vraiment un lieu dans lequel j'ai grandi. Tout mon temps libre, j'allais me balader dans les dunes ou dans les prés salés. Et du coup, j'ai eu envie de revenir ici et de m'engager dans le territoire. Et ça passait par s'engager dans l'associatif pour moi. Donc la semaine où j'ai décidé de vraiment revenir ici, il y avait le lancement de la marque Laine à l'Ouest au Café Les Pipelettes à Coutances. Et donc j'ai décidé d'aller voir de quoi il en retournait et puis de proposer mon aide sur le projet.
Et donc ça, c'était il y a combien de temps ?
Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était en mars 2018.
D'accord, ça va faire 2 ans et demi.
C'est ça, ouais.
Ça passe vite ?
Ouais, ça passe super vite. Hein. Ça passe super vite parce que c'est passionnant. Enfin, c'est ultra diversifié. C'est un apprentissage constant, en fait.
Et concrètement, donc, comment ça se passe, tout ce process de la laine ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, très concrètement, ça passe par beaucoup de temps, les mains dans la laine.
Ouais.
Le jour de la tonte.
Donc ça se fait combien de fois par an ?
Une fois par an.
D'accord.
Ça se fait une fois par an à l'entrée de l'été, on va dire. Enfin, ça dépend des coins. Hein,
c'est moins chaud.
Ouais, ça dépend des coins. Ouais. Dans les prés salés, ça commence en mai et ça peut, voilà, de mai à juillet.
Ok.
La tonte est très étalée chez nous parce que on a aussi un élevage qui est particulier. L'élevage ovin chez nous, tout le monde a un mouton dans le fond du jardin, quoi. C'est presque un animal domestique, oui. Le mouton chez nous. On n'est pas comme dans des régions montagneuses où voilà, il y a une tradition de pastoralisme avec des très grands troupeaux qui sont sur des espaces immenses. Mm. Nous, on est le département qui a le plus d'éleveurs, mais considéré comme éleveur, quelqu'un qui a 2 moutons.
Oui.
Donc, chez nous, la saison de la tonte, elle est vraiment très, très étalée.
C'est vous qui faites la tonte ou chaque éleveur se charge de sa tonte ?
Non, chaque éleveur appelle son tondeur.
Ok, chacun a ses petites habitudes.
Ouais. Le métier de tondeur, c'est un métier qui est essentiel, hein, et c'est vrai que il y en a pas beaucoup chez nous.
Ah ouais.
Il y en a quelques-uns qui sont formés, enfin c'est un métier c'est super physique, c'est ouais. et sans eux il y a pas de laine à l'ouest, en fait. Parce que
c'est la base de tout,
parce que le mouton, il ne faut pas le tondre n'importe comment. Si on veut valoriser la fibre, en fait, il faut qu'elle soit complète. Il ne faut pas que le tondeur passe 2 fois au même endroit.
D'accord.
Donc, les tondeurs...
Sinon, ça casse
la fibre. Et les tondeurs, ils ont une méthode qui s'appelle la méthode Bowen, qui est une méthode néo-zélandaise. Parce que sinon, c'est quand même là-bas que la laine... Okay. Voilà, le mérinos, enfin, où le mouton est vraiment élevé pour la laine, c'est là-bas. Mmh. Donc c'est là-bas que les beaucoup de tondeurs se forment. Donc c'est une méthode qui... En fait, le mouton, il est tondu en une minute. Il peut être tondu en une minute chrono, quoi. Il est assis. Et en fait, c'est vraiment... c'est comme une danse. C'est vraiment marrant à regarder. Parce que le tondeur, il est à la fois calme et à la fois ferme.
Ouais.
Et il va faire passer le mouton entre ses jambes, enfin dans plein de positions. Et en fait, la toison va rester entière.
D'accord, ça fait une seule pièce.
Ouais, ça fait comme un tapis, quoi.
On en voit d'ailleurs des peaux de mouton comme
ouais,
ça.
Ouais, bah là, du coup, il y a la peau,
ouais,
pour le coup.
Ouais.
Nous, il n'y a plus la peau,
ouais,
mais ça se tient quand même. Nous, justement, une fois qu'elle est tondue,
ouais,
cette toison, on la récupère, on l'étale sur une grille.
D'accord.
Une grille qui est ajourée, pour que voilà, tout ce qui est végétaux, caca, tout ça, ouais, ça tombe. Et là, on la trie, parce que sur une toison, tout n'est pas bon à prendre. On trie vraiment chaque toison, parce qu'il nous faut des mèches qui soient assez longues.
Ouais.
Pour faire du fil, ça dépend de l'usage qu'on veut en faire, bien sûr. Hein. Si on veut faire de la laine de rembourrage,
ouais,
on n'a pas besoin d'une longueur immense.
Ouais.
Mais si on veut faire du fil, il faut prendre en compte la longueur de la mèche, sa finesse, son ondulation. Enfin, pour un fil de qualité, il faut bien trier les toisons. Donc une fois que la saison de tonte est passée, on a rassemblé toutes nos toisons triées dans des big bags. On fait des assemblages selon les races, selon les localités, pour faire une gamme de laine en fait. Et puis on travaille ensuite avec une laverie.
D'accord.
Donc la laverie, elle est en Haute-Loire, parce qu'il faut savoir que l'industrie de la laine, elle n'existe plus en France,
oui,
en fait.
Oui.
Suite à la Seconde Guerre mondiale, toute cette industrie a été délocalisée. Mais il reste quelques bastions, oui, façon Astérix, donc principalement dans les régions hautes,
oui,
Alpes, Pyrénées, Massif central, où ils ont encore des petites unités de transformation familiale. Donc comme cette laverie, c'est la laverie du Gévaudan. Donc voilà, une fois que cette laine elle est lavée, ensuite elle est envoyée en filature.
D'accord.
Donc là, on travaille avec deux filatures. On travaille avec la filature Terrade, donc qui est dans la Creuse, et avec la filature du Tarn, la filature du Parc, qui est dans le Tarn. Voilà.
D'accord. Donc deux endroits pour filer.
Ouais, deux endroits pour filer parce que c'est deux gammes de laine différentes.
D'accord. Ouais. On retrouve pas la même chose après.
Non.
Ouais.
Non,
c'est ça qui explique
différents assemblages.
Ouais.
Et puis voilà, une fois que tout ça a été fait, bon déjà ça demande énormément de temps,
ouais,
parce que on a un délai minimum d'un an de traitement de la laine entre le moment où on l'envoie, le moment où on la reçoit. Parce qu'il n'y a plus cette industrie en France, donc...
Et c'est tout est manuel?
Alors, non, c'est pas manuel, c'est pas des vieilles qui filent au rouet,
oui,
façon...
Je me souviens de mes vacances chez mes grands-parents, où on était avec la laine dans la baignoire, tu sais.
Ah oui, pour quand tu refais les matelas, ouais, et tout, ouais. Non, c'est un peu plus mécanisé que ça.
Ouais.
Et du coup, c'est souvent des vieilles machines.
Hein. Oui, c'est ça, c'est quand même ancestral.
Ouais, c'est quand même un savoir-faire. On s'improvise pas fileur de laine.
Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, tout ça, vous pourriez pas le faire, tout ce qui est lavage et filage ici. Ça demande quand même un certain.
Alors, tu peux le faire pour.
Pour
ou
toi,
deux toisons,
ouais,
quoi, pour ton usage perso.
Mais pas sur la quantité.
Mais nous, on récolte une tonne de laine par an, donc... Non, c'est pas jouable.
Mmh. Ouais.
Ouais.
Et donc, une fois que c'est filé, il y a de la teinture aussi?
Alors, une fois que c'est filé, nous, on reçoit la laine sous forme d'écheveaux. Donc, les écheveaux, ils font 100 grammes.
Mmh.
Ça ressemble à des spaghettis un petit peu.
Mmh.
Et nous, alors, soit on décide de le commercialiser nature,
oui,
soit on effectue des teintures. Et
d'accord,
c'est nous qui les faisons,
c'est
les teintures.
C'est vous qui faites les teintures.
Ouais. Ouais, on a décidé de prendre la main là-dessus parce que les nuanciers qui sont proposés dans les filatures ne nous correspondent pas, en fait.
D'accord.
Justement, nous, on a un territoire qui est haut en couleurs,
ouais.
Et qui nous inspire vachement. Donc, c'est vrai qu'on aime beaucoup les bleu-vert.
Ouais.
Ouais.
Et donc là, la teinture, comment ça se passe, ouais. Donc, c'est vous qui imaginez les couleurs que
oui.
vous avez envie de faire, finalement.
Oui, oui. Alors, on n'est pas sur de la teinture végétale.
Ouais.
On a essayé au début, et puis on n'a pas été satisfaite... on n'a pas le savoir-faire, hein, tout ouais. ça, le savoir-faire, ça demande du temps. Mm. Donc on n'a pas été satisfaite de l'harmonie des couleurs, de la tenue dans le temps,
mm.
et de la consommation d'énergie que ça demandait. Donc nous, on travaille avec des teintures chimiques qui sont dites éco-responsables.
Mm.
Bon, nous, on est à l'aise avec parce qu'on arrive à vraiment maximiser notre bain de teinture, ça c'est vraiment quelque chose. On réutilise cette eau vraiment pendant longtemps.
Ouais.
On arrive à la maintenir à une température intéressante pour que. Enfin, je veux dire intéressante dans le sens où ça teint
ouais.
à une température moindre. Il faut faire bouillir ouais. moins de litres d'eau qu'avec de la teinture végétale.
Mm.
Donc voilà, nous, voilà, on ouais. a ce système-là.
Votre...
On a trouvé cet ouais. équilibre-là.
Ok. Et du coup, tu disais, c'est vraiment la nature qui va vous inspirer pour choisir les couleurs, les choses comme ça ?
Oui, oui, ouais. oui. Nous, naturellement, c'est vrai qu'on, vu qu'on travaille dehors avec les brebis, on est toujours abreuvé de belles lumières, ouais. de beaux paysages. Donc, on a un esthétique qu'on aime travailler. Après. On est toujours ouverte à tout. Il y a des clientes qui viennent nous voir en nous demandant un violet qu'on ne trouve pas forcément dans la nature. On peut très bien le faire, oui.
Ouais. Parce que c'est plutôt quand même des grosses quantités quand vous partez sur une couleur.
Alors non. Alors ça, c'est un point qui peut être amené à évoluer.
Ouais.
La teinture, c'est vrai qu'on s'auto-forme.
Ouais.
C'est le début, au final, quand on regarde... parce qu'au début on commercialisait vraiment de la laine nature. Actuellement on est limité par la petitesse de notre cuve.
Ouais.
on teint 8 ou 9 échevaux par 8 ou 9 échevaux.
D'accord.
Ouais. Donc
et donc par badge de couleur, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Après, nos couleurs, c'est vrai que on a des couleurs, comment dire, phares.
Ouais.
Vers lesquels on tend, mm. mais pour aller vers cette couleur-là, on passe par plein d'autres couleurs, donc ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de couleurs.
Donc pour plaire à tout le monde.
Ouais, ouais, bah du coup, tout le monde y trouve son... ce qui l'intéresse, je pense.
Ouais. Et donc, vous avez des clients fidèles qui viennent vous voir vraiment, qui s'approvisionnent que dans votre laine pour leur ouvrage.
Ouais, ouais, bah c'est vrai que du coup, à la base... que ce soit moi ou Stéphanie, on n'est pas des amoureuses de la fibre. Nous, on avait vraiment cette optique de défendre vraiment un élevage de qualité, de promouvoir les richesses de ce territoire qui est magnifique. Mmh. Mais l'amour de la fibre nous est venu grâce aux tricoteuses.
Mmh.
Parce qu'en fait... c'est toujours émouvant de voir les tricoteuses s'approprier la matière première. Puis c'est quand même incroyable, quoi, cette façon de faire des nœuds et d'aboutir à un pull, un vêtement. Enfin, la richesse des points et tout. Enfin, c'est vraiment les tricoteuses nous apportent beaucoup. Enfin,
et j'imagine de voir, alors déjà de voir, vous au début, le troupeau de moutons. Finalement, la laine se transformait en pelote, et après, de voir la pelote se transformer en vêtements, c'est vraiment...
Ouais, ouais, bah c'est...
C'est comme s'il y avait plusieurs vies, quoi.
Bah ouais, non, mais tout prend son sens, ouais. en fait. C'est pour ça que c'est passionnant et qu'on continue, quoi. Mm. C'est complet, quoi.
Et toi, tu tricotes ?
Alors, j'ai des bases.
Ouais.
J'ai des bases... Là, par exemple, je me suis lancée dans un pull, mais sans patron.
Donc,
je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que ça va finir comme le Père Noël est une ordure. Je vais sortir les poubelles avec. Mais j'essaye.
T'as eu envie, c'est aussi toutes les tricoteuses qui t'ont donné envie de dire, bah, finalement, moi, j'ai envie d'essayer.
Bah ouais, ouais, ouais. Quand on les voit avec un super pull... qu'on leur envie, je me suis dit, bah, moi aussi, je me fais un pull.
Et donc, tu disais, il y a une troisième personne qui vous a rejoint, Alexandra.
Alexandra, ouais. Ouais.
Et donc, elle apporte justement cet accompagnement peut-être aux tricoteuses et le côté plus...
Alexandra, du coup, elle, c'est une amoureuse de la fibre, pour le coup. Elle est vraiment venue dans l'Anne Ouest avec ce prisme-là.
Ouais.
Elle tricote super bien et... Elle a le contact avec les gens, enfin, elle anime notamment un café tricot à 40 ans, à la Clé du Bonheur, un petit resto salon thé.
J'ai découvert ça il y a pas longtemps, ça a l'air génial.
c'est un super endroit que je vous conseille.
Super bon.
Et du coup, Alexandra, elle nous a permis de... Justement, au début, quand on recevait du fil, mais voilà, nous, on recevait du fil, quoi.
Ouais.
Et tricotait, Alexandra lui a fait prendre forme, en fait, à ce fil.
Elle a donné vie.
Ouais. Donc, c'est grâce à elle, on sait que ça se tricote en telle aiguille.
Ouais. Et vous pouvez peut-être aussi conseiller, parce que je suppose qu'elle n'est peut-être pas tout le temps là, ça vous donne aussi quelques petites bases de conseils, ouais.
Non, mais c'est vrai que maintenant, on a évolué là, sur ce point-là, on a plus de références techniques, ouais.
Ouais. Et donc, il y a une boutique, là on est dans la boutique à l'essai.
Mmh. Donc,
vous vendez seulement les pelotes ou finalement, est-ce qu'il y a des projets où Alexandra pourrait bosser aussi sur des patrons ou des kits, genre des sortes de kits pour accompagner les personnes qui voudraient se lancer ou qui ont déjà un bon niveau?
Bah, en fait, à l'essai, on propose nos pelotes. Mais pour l'instant nos pelotes seules. On travaille avec certaines créatrices des tricoteuses qui nous font des modèles à partir de notre laine.
D'accord.
Parce que c'est vrai que souvent les tricoteuses aiment bien avoir le modèle qui s'ajuste à la laine. Donc on vend quelques patrons.
Elle crée les patrons et après vous les commercialisez pour les rendre accessibles à tout le monde en fait.
Du coup, ces créatrices-là créent des patrons et on les commercialise, ouais, effectivement. Mais sans commission.
Ouais. Mmh. Ok. Et donc, dans cette boutique, il n'y a pas seulement de la laine.
Non.
Il y a aussi plein d'autres choses.
Ouais.
Ça, c'est aussi dans les perspectives. Un peu au début, Stéphanie, avec son troupeau, elle a voulu évoluer. Le reste est venu aussi en même temps avec la volonté d'évoluer et faire grandir laine à l'ouest.
Bah en fait, à la base, il y avait cet espace vitré qui n'était pas utilisé. Et puis, on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va faire une sorte de boutique. Et puis, en rencontrant sur des marchés, des occasions festives, des artisans du coin, on s'est dit, pourquoi pas leur proposer un espace de vente.
Parce qu'avant, les pelotes, elles étaient vendues
En ligne. Ouais, on a une boutique en ligne, une boutique Etsy sur laquelle.
Donc c'était vendu comme ça. Et tu disais, vous faisiez quand même quelques marchés aussi pour se faire connaître et aller au contact.
Oui, on a fait quand même pas mal de fêtes estivales, les rencontres du patrimoine, les journées du patrimoine, puis toutes sortes de fêtes de village. Comme on avait l'habitude d'en voir beaucoup à l'été.
Ok. Voilà. Et c'était les marchés, la boutique, et donc vous avez dit il y a quelque chose à faire en physique, quoi.
Il y a quelque chose à faire en physique. Donc, du coup, on a donné une identité à Sieux qui s'appelle l'Atelier à l'Ouest.
Ouais.
Donc, c'est une association qui regroupe des artisans producteurs locaux. Donc on tourne, on le tient, on a des permanences, on est ouvert les mercredis et les samedis uniquement.
D'accord.
Parce que c'est vrai que toutes, on a du travail de production à côté, Donc on
si on veut pas produire être tout le temps à la boutique.
Voilà, c'est ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a Cap Création, donc qui est une jeune femme qui recycle du tissu.
Haute couture.
Ouais, du beau tissu qui est très très comment dire perfectionniste, enfin ouais. qui a vraiment des très belles finitions. Ouais. Il y a Anne qui fait de la petite brocante et quelques créations aussi, notamment dans le textile. Du coup, il y a Lena West. Il y a Cécile Vazeille qui est une céramiste de talent, hein, peut-être. Mmh. une céramiste qui est sur Montcuit. Et puis il y a la Cotentine Moderne, du coup, qui est l'exploitation agricole de Stéphanie,
ouais.
Avec laquelle elle commercialise un peu de charcuterie à base de moutons présalés et des infusions ouais. de plantes locales en cueillette, beaucoup. Et puis voilà, après il y a plein d'autres producteurs qu'on accueille, notamment des savons au lait d'ânesse. Savon de Florence, du matériel en bois, du matériel de cuisine, ils sont faits par Tournabois, enfin il y a plein de choses.
Et tout ça, c'est un peu un concours de rencontres, c'est les rencontres que vous faites.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Ouais, c'est des rencontres, beaucoup sur les marchés à la base, hein, mais. Ouais.
Et toi, tu travailles donc pour l'association et donc tu travailles aussi pour l'activité présalée, également tout ce qui est infusion et tout ça.
Bah alors ça, du coup, c'est très récent.
Ouais.
Du coup, avec Lana West, on a réussi à, comment dire, on est en train de professionnaliser la chose. Donc moi, oui, je travaille à mi-temps. Sur cette activité laine
oui.
pour la développer.
D'accord.
Et je travaille aussi avec Stéphanie sur le troupeau.
Oui.
Parce que ça marche ensemble.
Ouais. Et donc le troupeau, il faut y aller tous les jours ?
Alors ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons, ouais. C'est un troupeau du coup qui est sur les présalés de Saint-Germain-sur-Ré. Donc c'est un espace immense. Hein. Mmh. Il y a un peu plus de 600 hectares et dont un peu plus de 300 comestibles, enfin
oui.
Voilà, d'herbes. Donc ils sont sur cet espace immense en liberté presque 9 mois, enfin pratiquement 9 mois de l'année.
D'accord.
On les rentre pour les grandes marées, hein, pendant les grandes marées, pour pas qu'ils aient la tête sous l'eau.
Ouais. Ouais. Donc c'est quoi, des sortes de petits abris?
Il y a des champs de repli, en fait.
D'accord.
On les sort du Havre et ils vont dans des champs qui sont un petit peu... Enfin, qui sont à l'abri de l'eau, quoi.
Mais ils sont quand même en plein air, quoi.
Ah oui,
c'est
oui.
juste qu'ils sont plus dans leur champ.
Ouais. Les moutons, ils sont en bergerie pendant l'agnelage. Donc janvier, février, mars.
D'accord.
Une partie du mois de mars. Ouais, 2 mois et demi.
Peu de temps sur l'année, finalement.
Ouais, peu de temps sur l'année, parce que l'élevage en présalé, c'est très réglementé. Hein. Il y a un retrait hivernal qui est obligatoire pour que la végétation soit pas ratiboisée.
Ouais.
Ouais, ouais. Donc, du coup, ils sont 3 éleveurs sur le Havre à se partager un quota de brebis.
Et Stéphanie, ça fait combien de moutons ?
Stéphanie, elle a un quota de 100 moutons.
D'accord.
Ouais.
Et on voit depuis tout à l'heure une petite tête qui nous fait coucou là dehors. C'est un border collie.
Ouais, du coup, c'est Minuit, qui est le chien de troupeau de Stéphanie. Donc, qui est très utile pour rentrer le troupeau, en fait, avant les grandes marées, parce que compte tenu de la liberté qu'ils ont sur cet immense espace, bah pour les rattraper, il faut y aller. Quoi.
Ouais.
Ils ne viennent pas manger dans le creux de la main. Quoi. C'est vraiment des moutons qui ont un caractère un peu sauvage. Quoi.
Ouais.
Enfin, et du coup, le chien est nécessaire.
Ouais.
Pour,
il vous aide.
Ouais. Ouais.
Puis c'est tout son métier finalement. Et donc toi, t'as appris vraiment sur le terrain au fur et à mesure, aux côtés de Stéphanie, tout cet univers de, d'élevage.
Ouais. Bah moi, je suis en observatrice du coup depuis 2 ans et demi. J'ai toujours aimé l'animal.
Ouais.
Mon grand-père a des brebis.
T'étais déjà familière.
J'ai toujours aimé les animaux. Enfin, oui, c'est le mouton m'a toujours a toujours été là. Il ne demandait qu'à sortir.
Ouais.
Et du coup, il est sorti avec la rencontre avec Stéphanie. Ouais.
Qu'est-ce qui te plaît en fait le plus toi, au quotidien dans toute cette activité?
Bah, c'est la diversité. C'est la valorisation de cette matière fantastique qui actuellement quand même quand la laine c'est un sous-produit animal qui encombre les gens actuellement, enfin les éleveurs ils sont encombrés par ça, la majorité des éleveurs.
Oui.
C'est envoyé en Chine, 90% de la laine, voilà, c'est parti, c'est traité en Chine, voilà, dans des endroits où il n'y a pas de normes environnementales, il n'y a pas de droit du travail. Et ça nous revient sous forme de pulls dans les grandes surfaces, tout ça. Et encore, souvent, c'est de la laine qui a été... ça n'a de laine que le nom, en fait. La laine, la fibre a été complètement décapée. Elle n'a plus toutes ses vertus. Donc, ouais, moi, c'est vraiment cette économie locale qu'on peut recréer qui m'intéresse. Je trouve que c'est un fantastique outil aussi pour montrer au reste du monde notre superbe territoire et nos superbes races. Parce qu'on a quand même 3 races, quoi. 3 races locales, c'est pas rien dans un petit territoire comme le nôtre. Ça prouve la diversité de notre terroir. Tout
le monde. T'es fière de contribuer à ça.
Ouais, franchement. Ouais, j'adore notre coin. Ouais. Quand je me balade en voiture, enfin je kiffe. Il y a rien à dire, quoi. C'est, je suis contente d'être là.
Être au grand air.
Ouais, je trouve qu'on a, on a un cadre de vie qui est fantastique, quoi.
C'est sûr. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour l'association ou pour...
Voilà, on est vraiment dans la professionnalisation parce que c'est vrai que pendant 4 ans ça a été du bénévolat. Donc là, on est quand même assez contente de nous de pouvoir créer de l'emploi avec ça.
Oui.
Même si c'est pas un temps plein pour le moment. Et puis comme petit projet sympa, on aimerait bien se former à tondre.
Ah oui.
Ouais.
Et donc avec des tondeurs locaux ou
alors non pour
comment
le coup,
ça se passe?
Il y a une association à l'échelle française qui s'appelle l'ATM. L'association des tondeurs de moutons, du coup, qui propose des formations d'initiation à la tonte. Donc, ouais, ça, c'est un petit projet qui nous dirait bien.
Ouais.
Ce serait bien d'avoir cette compétence-là en plus, pour pouvoir faire des démonstrations.
Ça, c'est impressionnant. Il y a de temps en temps, il y avait les rencontres là, des jeunes agriculteurs ou tout ça, il y a souvent des démonstrations avec des chiens de berger ou de tonte, et c'est vrai que c'est impressionnant, et je pense que les gens aiment bien voir aussi au plus près, comme ça. J'ai vu que vous faisiez des visites aussi, non? Dans les prés.
Ouais, Stéphanie fait ça depuis pas mal de temps maintenant, des visites estivales, des prés salés, donc vraiment pour expliquer le milieu, qui est quand même... géographiquement, il y a des havres, comme ça, on a une côte constituée de plusieurs havres, c'est assez unique. Donc voilà, géographiquement, c'est très intéressant. Et du coup, pour expliquer aussi l'élevage sur ce milieu géographique.
Et ça attire du monde?
Ouais, ça attire du monde.
Les gens sont curieux et ont envie de savoir aussi.
Ouais, et puis c'est l'occasion de marcher pieds nus dans les crottes, dans la salicorne,
de se reconnecter
dans la tangue, c'est toujours un moment chouette, ouais.
Et toi, tu participes, donc ça permet de rencontrer aussi...
Ouais. Non, mais c'est... C'est vrai que le contact fait qu'il y a toujours... On en retire toujours quelque chose des échanges avec les gens. C'est toujours intéressant, quoi.
Donc toi, ça te plaît. Si c'était à refaire, tu referais, tu reviendrais.
Je m'éclate bien dans ce que je fais, ouais.
Super. Eh ben, merci beaucoup en tout cas.
Ben, merci à toi.
Je vous invite à visiter la boutique située dans le centre de l'essai, ouverte le mercredi et le samedi. Vous y découvrirez aussi d'autres produits de créatrice. Les sacs et accessoires de la talenteuse Karen de Capcria, les savons au lait danaise de Ferian San ou les céramiques de Cécile Vazel. Pour les tricoteuses, vous pouvez découvrir les merveilleuses couleurs de laine proposées et vous pourrez peut-être bientôt en apprendre plus lors des ateliers tricot organisés par Alexandra au restaurant La Clé du Bonheur à 40 ans. Retrouvez aussi Laine à l'Ouest sur Instagram et Facebook. Belle journée !